1h05, c'est la dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
On le présente comme le Français qui apprend l'intelligence artificielle à Facebook. Il est en tout cas l'un des chercheurs les plus en vue du moment. Ingénieur de formation, passé par l'université Paris 6, où il a fait sa thèse, puis par l'université de Toronto, et les laboratoires AT&T Bell Lab. Il est aujourd'hui professeur d'informatique et de neurosciences à la New York University. Et il a été recruté en 2014 par Facebook pour diriger son laboratoire d'intelligence artificielle. Le Collège de France l'a nommé pour un an à la chaire d'informatique et de sciences numériques qu'il a inaugurée hier dans une leçon intitulée « Apprentissage profond, une révolution en intelligence artificielle ». Et sachant que d'aucuns parlent aujourd'hui de l'intelligence artificielle comme de la quatrième révolution industrielle, après la vapeur, l'électricité et le numérique dont on commence à peine tout juste à entrevoir les retombées, c'est dire l'importance de la recherche de notre invité. Yann Lequin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Et bonjour et merci à Gérard Berry d'avoir accepté de dialoguer avec vous aujourd'hui. Alors c'était un plaisir, je crois, Gérard Berry, de dialoguer avec Yann Lequin aujourd'hui. Vous êtes informaticien, vous êtes le premier à avoir occupé la chaire qui ne s'appelait pas encore informatique et sciences numériques il y a quelques années maintenant, il y a 7 ans, je crois à peu près. Vous êtes aujourd'hui professeur au Collège de France, titulaire de la chaire algorithme, machine et langage, par ailleurs médaille d'or au CNRS en 2014 et membre de l'Académie des sciences. Alors Yann Lequin, l'intelligence artificielle, on voit, on sait à peu près. Mais vous êtes l'inventeur du deep learning, l'apprentissage profond, dont vous avez dit hier lors de votre leçon inaugurale, d'abord que c'était une vieille idée, première chose surprenante pour des non-initiés comme nous, et puis vous avez dit aussi une dizaine de fois que c'était très simple. Alors est-ce que, de façon assez simple et accessible, vous pourriez nous dire ce qu'est le deep learning par rapport à l'intelligence artificielle ?
Alors c'est effectivement une vieille idée dont je ne suis qu'un des inventeurs. C'est beaucoup de gens ont eu cette idée plus ou moins simultanément. Certains avec lesquels je collaborais. C'est une communauté qui était relativement importante à la fin des années 80, qui s'est un petit peu développée au début des années 90 et puis qui a rencontré une espèce de d'hiver, de vent contraire et qui ne s'est réveillé que dans la décennie passée, disons. Alors l'idée de base est donc c'est une méthode, une classe de méthodes particulière pour entraîner les machines au lieu de les programmer directement. Donc pour faire des tâches qui sont typiquement attribuées aux animaux et aux humains, de telles que reconnaître des objets dans les images, transcrire la parole ou interpréter des textes. Et ces techniques, ce genre de tâches est extrêmement difficile à programmer directement. C'est très difficile, par exemple, de définir à travers un programme à quoi ressemble un objet tel qu'une chaise ou même la lettre A manuscrite. Il y a tellement d'aspects possibles de ces objets qu'on a beaucoup de mal à réduire ça à une suite d'instructions pour un ordinateur.
Le fait que depuis quelques années, nous accumulions, et en particulier je suppose à Facebook, un nombre de données considérables qu'on appelle le big data, et Serge Habitboul est venu la semaine dernière nous dire que sur les big data, à quel point la nécessité aujourd'hui c'était justement d'apprendre à gérer, à classifier, à traiter toutes ces données, le fait que nous devions, enfin vous surtout, mais nous aussi d'une certaine façon, faire face à toutes ces données, est-ce que ça vous a aidé dans cette tentative de faire comprendre à la machine ce qu'est cette chaise-là par rapport à ce qu'est une autre, ou au contraire, c'est un obstacle pour vous, de plus en plus difficile ?
En fait, c'était une des raisons pour laquelle il y a un espèce d'engouement ces dernières années pour ces méthodes d'apprentissage profond qui, comme vous l'avez dit, existent depuis un certain temps, depuis la fin des années 80, début des années 90. Mais elles étaient un petit peu restées sous le couvert pour la raison que elles ne brillent que lorsqu'on les entraîne avec énormément de données, qui ne sont devenues disponibles que relativement récemment. Et aussi, elles ont besoin d'ordinateurs capables de puissance de calcul assez énorme et dont l'apparition est relativement récente. Donc on a assisté à un phénomène depuis environ 2011-2012 où les planètes se sont alignées pour ça, c'est-à-dire les données sont de grande quantité, sont devenues disponibles en grande quantité, les machines sont devenues disponibles et les gens se sont aperçus que ces méthodes-là, qui avaient été un petit peu délaissées, était extrêmement performante. Ça a créé une mini-révolution dans le domaine et ça a créé un engouement pour l'industrie qui a vu les opportunités pour des systèmes d'organisation de photos, d'analyse d'images, de compréhension du langage naturel, de reconnaissance de la parole.
Yann Lequin, depuis quelques temps, on va prendre des exemples, mais on parle beaucoup, alors, depuis la semaine dernière, de ce joueur de Go professionnel qui a été battu par un ordinateur, DeepMind, mais on parle aussi, autre application peut-être directe de vos travaux, de la voiture autonome, c'est-à-dire de la voiture sans chauffeur, pour le dire très clairement. Est-ce que ce sont deux domaines directs d'application de vos propres travaux ?
Oui, alors le système AlphaGo produit par DeepMind utilise une technique qu'on appelle les réseaux convolutifs qui sont d'une certaine manière mon invention, qui date justement de la fin des années 80. C'est aussi cette technique qu'on utilise pour la reconnaissance d'images. Il y avait un problème avec le Go, c'est que on ne pouvait pas utiliser des techniques classiques d'informatique pour jouer au Go, c'est-à-dire les techniques d'exploration arborescente où on essaye un petit peu de jouer tous les coups possibles et puis d'explorer au fur et à mesure ce qui va se passer. Le nombre de possibilités de jeu est tel dans Go que tout de suite le nombre de possibilités explose et même les ordinateurs les plus rapides sont trop limités. Donc ce que plusieurs groupes a proposé récemment, c'est d'utiliser ces systèmes de reconnaissance de forme qui sont en fait à l'origine prévus pour la reconnaissance d'images et de l'appliquer un Goban qui est le jeu de Go. C'est d'une certaine manière, c'est une image de 19 par 19 pixels, c'est tout petit, et de brancher un de ces réseaux convolutifs et de l'entraîner à prédire le meilleur mouvement suivant. Et on peut faire ça à partir d'un énorme catalogue de jeux enregistrés joués par des experts. Donc d'une certaine manière, c'est toujours de l'apprentissage supervisé. Alors DeepMind n'était pas tout seul à faire ce genre de projet. Il y a des projets similaires aussi à Facebook et dans des groupes universitaires.
Oui, parce que vous dire que c'est un logiciel de Google, hein, c'est un peu votre concurrent.
Oui, enfin on collabore avec eux aussi pour pas mal de projets. Et puis un des auteurs de l'article est un de mes anciens étudiants. Donc bon, c'est une communauté qui s'échange beaucoup d'informations. L'apport nouveau du système de DeepMind, qui s'appelle AlphaGo, c'est la combinaison de ces réseaux convolutifs avec deux choses. Une qui est cette exploration arborescente qui est plus classique. Et par ailleurs, une technique dont ils sont un petit peu les spécialistes, c'est un peu leur marque de fabrique, qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Et ça permet à la machine de jouer contre elle-même des millions de parties et d'apprendre à se raffiner en jouant des parties contre elle-même et en apprenant comment gagner, d'une certaine manière.
Et la voiture autonome, c'est pour demain ?
Alors la voiture autonome, ça commence déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des systèmes d'assistance à la conduite, pour l'instant, dans des voitures haut de gamme, mais ça va se généraliser assez vite. Et les systèmes de vision qui interprètent les signaux des caméras dans ces voitures utilisent aussi ces techniques de réseau convolutif pour interpréter l'image, détecter si on est toujours dans la voie sur l'autoroute, si des voitures sont à côté de nous, etc., pour prédire un petit peu ce qui va se passer autour de nous. Une autre application qui est susceptible d'avoir un très gros impact sur la vie de tous les jours, c'est l'utilisation de ces méthodes pour l'analyse d'images médicales.
Gérard Berry.
Bonjour.
Une énorme révolution, un énorme progrès depuis donc 4-5 ans, même pas, enfin depuis 2012 surtout, un pas a été franchi.
Oui, alors il y a des progrès comme ça arrive assez régulièrement en informatique, mais là c'est un sujet tout à fait nouveau. L'informatique est divisée en plein de catégories, c'est une très grande science, une très grande technologie, et là, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'informatique de l'action. Comment conduire une voiture, comment piloter un avion, c'est pas du tout la même chose. Nous, on n'est pas très bons. Par exemple, les avions modernes, les avions instables en particulier, les hommes ne savent pas les piloter directement. Il faut des ordinateurs pour le faire. Donc, on utilise, nous, les ordinateurs pour faire ce que les hommes savent pas faire. Ce que fait Yann, c'est exactement l'inverse. C'est utiliser les ordinateurs avec des principes assez différents, hein, je peux en parler, pour faire, au contraire, ce que nous savons faire. Et ça, notre informatique est très, très inopérante là-dessus. C'est une vieille tentative d'intelligence artificielle, mais c'est pas toute l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, il faudrait commencer par définir le mot intelligence, ce qu'on fait en général pas, d'ailleurs ni dans l'intelligence humaine. Et donc la perception est nécessaire à l'intelligence, mais c'est loin d'être toute l'intelligence. L'invention est un autre problème. Et en un sens, le jeu de Go, Ce que démontrent les programmes d'échecs et le jeu de Go, c'est que pour jouer bien au Go et aux échecs, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'inventions. C'est ça que ça dit. C'est surprenant pour les hommes, mais c'est la vérité. Donc, il y a l'informatique de la perception, donc qui est en train d'exploser, puis l'informatique de la conduite. Par exemple, conduire une voiture autonome et regarder le paysage, c'est deux activités très différentes. Et on saura, je pense, regarder le paysage bien mieux qu'on ne saura conduire les voitures.
Yann Lequin, ça c'est une vraie question de savoir comment on définit l'intelligence, parce que vous vous dites, on va pas rentrer dans les détails, c'est quand même trop précis, trop technique pour l'ensemble de nos auditeurs, de comment vous faites et à partir de quelle méthode vous travaillez, mais quand même cette question de l'inspiration humaine, biologiste, enfin biologique, est-ce qu'on s'inspire de la nature, est-ce qu'on la copie pour essayer de reproduire une intelligence ou au contraire de s'inspirer de quelques principes pour ensuite pouvoir l'appliquer à la machine, c'est une question que vous vous êtes posée, que vous continuez de vous poser pour savoir jusqu'où vous pouvez aller d'une certaine façon.
Voilà, alors la biologie est certainement une inspiration, c'est une preuve d'existence de machines intelligentes, le cerveau est une machine intelligente. Donc c'est de même que les oiseaux ont été une inspiration pour les pionniers de l'aviation qui prouvaient d'une certaine manière que le vol d'un plus lourd que l'air était possible. Donc on a un petit peu cette inspiration. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a des gens qui ignorent complètement la manière dont les humains opèrent ou les animaux, qui se basent sur des bases algorithmiques. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on fait des programmes de jeux d'échecs, etc. Et puis d'autres qui essaient de s'inspirer un petit peu plus de la biologie. Et puis d'autres qui sont un petit peu plus extrêmes, qui essaient de copier dans tous les détails la biologie. Alors je me place un petit peu au milieu, c'est-à-dire que je trouve utile de s'inspirer d'une certaine manière de la biologie, mais je trouve qu'il n'est pas nécessairement une bonne chose de s'inspirer de trop près sans comprendre les principes élémentaires. C'est-à-dire que si on essaie de copier dans ses moindres détails le fonctionnement du cerveau, on aura beaucoup de mal à construire une machine intelligente sur ce principe-là sans en comprendre les principes sous-jacents et disons la théorie qui sous-tend tout ça. Donc on essaie les systèmes qu'on utilise, par exemple d'apprentissage automatique, sont des réseaux interconnectés de petits éléments relativement simples, et l'apprentissage modifie l'efficacité des connexions entre ces éléments, et c'est un petit peu similaire aux neurones du cerveau qui sont interconnectés par des synapses dont l'efficacité change à mesure que la personne apprend. Donc on a une petite inspiration de ce côté-là, mais quand même on justifie tout ça par des arguments plus mathématiques que la mimétique avec la biologie.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des mathématiques, Gérard Berry, des neurosciences et de l'informatique dans ce que fait Yann Lequin.
Ah, il y a de l'informatique, il y a beaucoup de matériel, en particulier informatique subtile, qui n'a pas du tout été fait pour ça, qui a été fait pour les jeux, ce qu'on appelle les Graphical Processing Unit, donc qu'adorent les enfants parce que ça permet aux jeux d'aller très vite, et qui se trouve être les bonnes machines pour faire ce qu'il fait. Par exemple, pour faire ce que se fait, ça sert à rien du tout. Donc l'informatique est extrêmement variée, hein, comme on disait. Donc effectivement, il y a des domaines où on s'inspire de la biologie, mais faut pas... Le mot intelligence artificielle a un gros défaut, c'est qu'il fait croire aux gens qui peuvent extrapoler tout n'importe où. Et ça, c'est absolument pas vrai. Par exemple, nous sommes très très forts à regarder le paysage. Pourtant, José Sahel, qui a fait sa leçon inaugurale la semaine d'avant, montre que nous ne voyons rien du tout. En fait, c'est notre cerveau qui reconstruit tout. Donc, le cerveau humain est une machine qui est extrêmement incomprise, extraordinairement intéressante, et dont on peut prendre des choses à l'intérieur. Mais le cerveau humain est complètement incapable de multiplier trois chiffres par trois chiffres de tête, alors qu'un ordinateur fait ça très facilement. Donc, les gens pensent souvent qu'il suffit de s'attaquer à un problème pour le résoudre. Dans l'intelligence artificielle, c'est pas vrai. Alors, il se trouve que le problème de la perception fait des progrès absolument énormes. La planification aussi fait des progrès assez énormes à cause de très belles choses en mathématiques aussi. Et puis, il y a des problèmes sur lesquels on sait pas grand chose. Il y a des travaux de biologie sur la conscience très importants. Mais pour l'instant, en informatique, on n'a rien à en dire.
Et en deep learning, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Quels sont les obstacles au progrès, même s'ils sont considérables, Yann Lequin?
Alors, on sait effectivement maintenant faire la perception, et c'est quelque chose qui, si on avait posé la question à un chercheur en vision par ordinateur il y a 10 ans, aurait peut-être dit que ça prendrait 20 ou 30 ans à résoudre. Il s'avère que maintenant, on peut faire des systèmes qui analysent les images et qui reconnaissent tous les objets dans les images de manière très efficace. On peut faire des systèmes qui peuvent faire de la classification à ce qu'on appelle à grain fin. Donc, ils pourront reconnaître des espèces de plantes, des races de chiens, des visages par dizaines ou des centaines de milliers, donc avec d'une certaine manière des capacités surhumaines. Donc ça a fait des progrès énormes ces dernières années. Donc les dernières démonstrations pour le jeu de Go montrent que des techniques très similaires peuvent être utilisées pour des tâches d'un petit peu plus haut niveau. Un des progrès certains de ces dernières années, c'est la réduction des taux d'erreur des systèmes de reconnaissance de la parole. Donc
on parle de mots et d'images, hein. Les deux exactement. Se rapprochent depuis quelques temps, alors qu'on avait tendance à les séparer. Il y avait l'image d'un côté, les mots de l'autre. Voilà. Là, vous parlez de l'un comme de l'autre, de la traduction automatique comme de la reconnaissance d'une chaise ou d'un visage.
Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à une espèce de convergence de tous ces domaines qui, jusqu'à récemment, étaient des domaines extrêmement séparés, utilisant des techniques très différentes. Et à cause de l'apprentissage profond, grâce à l'apprentissage de fond, oui, on peut maintenant utiliser pratiquement la même méthode pour une grosse partie de tous ces systèmes. Donc, la reconnaissance d'image, la traduction automatique, l'interprétation de la parole, l'analyse des images médicales, la robotique mobile, etc. Toutes ces méthodes utilisent maintenant des méthodes d'apprentissage profond qui sont très, très similaires les unes aux autres. Bien sûr, avec d'autres choses autour. Mais c'est un phénomène un petit peu nouveau. Donc, c'est un peu un rêve pour moi d'avoir un algorithme un petit peu universel qui permettrait d'enseigner à une machine ou d'apprendre à une machine des tâches multiples. Et je pense qu'on va voir une généralisation de ce genre de choses où les machines vont devenir de plus en plus générales et vont pouvoir traiter des problèmes de plus en plus larges.
Et il y a une grande question qui décompose la question de l'intelligence artificielle, mais elle se pose évidemment pour le deep learning, Yann Lequin, c'est la question de la concurrence entre l'homme et la machine. Est-ce que le cerveau humain va être remplacé par le cerveau de l'ordinateur? Voire est-ce que l'homme sera tué aussi bien économiquement, pour commencer d'abord, et peut-être même physiquement un jour, par la machine? Est-ce que vos travaux contribuent à ça?
Non, alors l'intelligence artificielle est une amplification de l'intelligence humaine. Bien sûr, par certains côtés, des machines intelligentes pour l'instant, enfin intelligentes entre guillemets, nous rendre un petit peu humbles dans la mesure où on peut descendre et acheter un gadget à 30 € dans n'importe quelle boutique qui va nous battre à plate couture aux échecs. D'une certaine manière, cette machine est plus intelligente que nous, mais pas de manière générale. On utilise tous ces outils intelligents pour amplifier notre intelligence. Beaucoup d'entre nous aussi sont très habitués à interagir avec des entités plus intelligentes que nous. Par exemple, dans mon travail de directeur d'un laboratoire de recherche, je vois comme un but dans la vie de d'embaucher avec des gens qui sont plus intelligents que moi pour travailler avec moi. Donc, on est habitué à interagir.
Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, des gens plus intelligents que vous ? Comment vous les détectez ?
Des gens qui peuvent apprendre des choses, des gens qui peuvent apprendre des choses au monde et par la même. Agrandir le domaine du savoir humain et donc apprendre des choses au monde entier. Ils sont peut-être plus compétents dans certains domaines que moi-même et que leurs collègues. C'est pour ça qu'ils contribuent à quelque chose. Donc ça va pas être un phénomène nouveau que d'interagir avec des entités plus intelligentes que nous. On est déjà habitué à ça en la personnalité d'autres humains. Bon, par ailleurs. On pourra voir les machines intelligentes comme étant sous le contrôle du cerveau humain, de la même manière que notre intelligence humaine est un petit peu sous le contrôle de notre cerveau reptilien. Par exemple, la plupart de nos pulsions qui font qu'on est humain ont été construites en nous par l'évolution. On a beaucoup de mal à les contrer pour des raisons de survie et aussi pour des raisons par le fait que nous sommes des animaux sociaux et que on apprécie la compagnie d'autres humains, etc. Donc ces machines auront aussi des pulsions qu'on va essayer de construire en elles, de manière à ce que leur valeur morale, je ne veux pas utiliser grand mot parce que c'est un petit peu ça semble un petit peu grandiose, mais disons que leurs pulsions élémentaires seront alignées avec les valeurs morales humaines.
Et vous parlez de morale et vous parlez de pulsions élémentaires. C'est assez surprenant, hein, quand on vous entend parler. Gérard Berry.
Oui, j'ai une question, Yann. On parle beaucoup de perception avec les ces techniques, mais alors qu'en est-il de l'action, qui est l'autre domaine de il y a trois domaines. Il y a la perception, il y a le raisonnement et la construction d'images et la construction de plans, etc. Et puis l'action. Donc, est-ce que ces techniques peuvent aussi intervenir là-dedans?
Oui, alors en fait, c'est une grande question, c'est un des défis du futur. Effectivement, si on imagine un système complet un robot, par exemple, il y a effectivement une phase de perception, une phase de raisonnement, une phase de planification, et ensuite une phase d'action qui pourrait tirer parti d'une certaine manière de l'imprédictibilité du monde. Alors, un des gros défis et un des sujets de recherche très 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 actifs de ces prochaines années, enfin qui existe depuis un moment, c'est la combinaison de tout ça. C'est la combinaison de la perception avec la planification, le raisonnement, l'action. Ça veut dire aussi avoir une mémoire. Et donc il y a beaucoup de travaux. Donc le travaux sur le sur
on
le...
parle bien de la mémoire là, des ordinateurs.
Alors oui, mais alors il y a une chose un petit peu surprenante, c'est que ces systèmes d'apprentissage profond jusqu'à très récemment, ce qu'on a utilisé jusqu'à très récemment, n'ont en fait aucune mémoire, en ce sens que on leur montre une image, ils donnent une réponse et c'est fini.
Ils ont Alzheimer, quoi. Ils oublient tout de suite ce qui est...
Ce qui s'est passé. Donc si par exemple on veut construire une machine qui, à partir d'apprentissage profond, pourrait lire un texte, se rappeler du texte et ensuite répondre à des questions sur ce texte, il faut une structure différente qui est spécifique pour stocker de la mémoire à court terme, d'une certaine manière. C'est-à-dire pour se rappeler de ce que la machine vient de lire. Il s'avère que dans le cerveau des mammifères, il y a une structure très similaire qui s'appelle l'hippocampe, qui est au centre du cerveau, qui nous sert à nous rappeler, par exemple, du chemin qu'on a suivi pour rentrer dans un bâtiment, du nom de la personne qu'on vient de rencontrer, d'un numéro de téléphone d'hier, etc. Et c'est une structure séparée du cortex, d'une certaine manière. Le cortex du cerveau est une espèce de calculateur qui peut apprendre des comportements par changement de ses poids synaptiques, mais les faits épisodiques, ce qu'on appelle la mémoire épisodique ou la mémoire à court terme, est stocké dans une structure différente. Donc on a construit des modèles récemment, ça s'est passé dans les deux dernières années, qui ont ces deux modules et qui combinent l'apprentissage profond et la mémoire.
Chercher à créer l'hippocampe de l'ordinateur.
L'hippocampe de l'ordinateur, exactement.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Le deep learning, ses enjeux, ses applications. Notre invité aujourd'hui est Yann Lequin, qui est considéré comme l'un des inventeurs, nous a-t-il dit, de l'apprentissage profond. L'apprentissage profond étant une révolution dans l'intelligence artificielle. Nous discutons de tout cela en sa compagnie et en la compagnie de Gérard Berry, informaticien, le premier à avoir occupé la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, dont il est aujourd'hui titulaire de la chaire algorithmes, machines et langage. Nous parlons de tout ça, mais nous avons omis quelque chose de central, me semble-t-il, Yann Lequin, c'est que vous êtes aujourd'hui un chercheur à Facebook. Et on voit de plus en plus d'articles disant qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu central pour les géants du web. Or, Facebook, c'est un géant du web. Comment expliquez-vous que ce soit devenu un enjeu central? Pour quelle raison?
Oui, c'est devenu une espèce de domaine stratégique. Beaucoup de compagnies de la technologie, pas seulement des compagnies sur le web, en fait, voient les progrès de l'intelligence artificielle comme une technologie qui va permettre de gros progrès dans leur part du marché, etc. Donc Facebook est intéressé par l'intelligence artificielle dans la mesure où elle peut être utilisée pour connecter les gens. L'activité principale de Facebook, sa motivation, sa raison d'être, c'est de connecter les gens entre
eux. C'est un réseau social.
C'est un réseau social. Donc connecter les gens entre eux, connecter les gens avec l'information, gérer le flux d'informations dont on nous bombarde pour sélectionner par exemple l'information qui est intéressante. Donc par exemple, chaque jour quand on se connecte à Facebook pourrait vous montrer environ 2000 ou 3000 pièces d'informations qui viennent de sources diverses, de vos amis, de l'information en général, du web un peu partout. Mais bien sûr, on n'a pas le temps de tout regarder, donc les systèmes de Facebook doivent s'adapter à vos goûts, à vos intérêts, pour sélectionner environ 100 ou 150 pièces d'information à vous montrer chaque jour. Et pour que ces pièces d'information soient les plus intéressantes pour vous. Il faut arriver à savoir de quoi une pièce d'information parle. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé par la voile et qu'un de vos amis a posté une photo d'un voilier, il faut savoir qu'il y a un voilier dans la photo, donc il faut savoir reconnaître l'image. Et par ailleurs, il faut savoir que vous êtes intéressé par les voiliers. Donc, il faut aussi avoir une bonne idée de vos intérêts. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des machines intelligentes, pour comprendre les gens, pour comprendre les contenus et pour apparier les deux.
Hier soir, vous montriez quelques images, bien entendu. Vous accompagniez votre leçon inaugurale au Collège de France Yann Lequin d'un certain nombre de diapositives. Et en particulier, vous montriez l'exemple d'un plat de légumes avec des photos. On avait des carottes, des pommes de terre, des navets et puis des brocolis. Et puis, on voyait les mots apparaître parce que l'ordinateur, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'ordinateur sachait donc maintenant, sait reconnaître les légumes, et donc on voyait brocolis, carottes, écrit en dessous. Et vous disiez, vous, c'est très important pour vous, par exemple, parce que vous n'aimez pas les brocolis, disiez-vous, et donc voilà, que la machine puisse reconnaître les brocolis vous permettrait un jour, dans un restaurant, de commander un plat dans un restaurant chinois, par exemple, sans qu'il y ait de brocolis. C'est cet ordre-là. Moi, là, c'est un jeu. Il y a sans doute bien plus d'enjeux que de jeux dans ce que vous faites.
Oui, c'était bien sûr une blague, mais... Effectivement, on a un système qui est capable non seulement de dire qu'il y a un brocoli dans l'image, mais de dessiner le contour de ce brocoli et donc de connaître sa position. Et donc, on pourrait imaginer, peut-être pas dans une situation de ce type-là, mais dans une autre situation qu'un robot avec un bras, par exemple, pourrait manipuler des objets, parce que maintenant, on est capable de les localiser, les reconnaître. Donc, ça permettra de faire des progrès très très grands dans ce domaine. C'est un système qui a été construit à Facebook dans les mois derniers, en fait.
Après votre arrivée, quoi. Non, je plaisante. Gérard Berry.
Oui. Non, j'ai rien à dire de spécial là-dessus. Moi, c'est par rapport à Facebook ou l'industrie. Bien, je pense que la recherche française progresse beaucoup parce qu'elle considère plus l'industrie comme un ennemi. On avait un vieux fond qui sort de je sais pas où que. Le privé était l'ennemi et le pas privé. Personnellement, j'ai toujours fait ma recherche en liaison forte avec l'industrie. Ça a été avec Dassault Aviation, ça a été avec Intel, avec des startups américaines. J'ai co-créé une société qui s'appelle Estera Technologies. Tous les avions que vous allez prendre à partir de maintenant volent avec des outils qui sont des outils français, développés aussi à Grenoble par nos amis de Grenoble. Et qui sont maintenant industriels. Et pour nous, il n'y a pas tellement de différence. Même pour la recherche, c'est très important de travailler avec l'industrie parce que bien souvent, on ne peut pas avoir les bons exemples directement quand on est chercheur. On n'y a pas accès simplement pour des raisons techniques. Quand je travaillais sur les circuits chez Intel, on n'a pas du tout les moyens de faire ça. Dans les
moyens,
labos.
Oui. J'allais vous dire aussi les moyens.
Et ce sont les mêmes gens. Et les communautés, on voit toujours l'industrie comme extrêmement possessive et tout. Il y a de plus en plus, par exemple, tout ce qu'ils font chez Yann est disponible en domaine public. Chez Microsoft aussi, on dit des ogres. Par exemple, j'enseigne cette année des choses sur la preuve de programme, la logique donc, et c'est des choses qui sont en domaine public faites par Microsoft, par des gens qui sont mes collègues directement. Donc c'est très important pour nous parce que l'industrie a d'abord beaucoup de problèmes intéressants qu'on ne peut pas connaître tant qu'on n'est pas un peu relié, et puis aussi être intéressé par des solutions.
Et Yann Lequin.
Oui, Gérard vient parler d'une question très importante qui est la nature ouverte de la recherche. Alors, quand on parle de recherche, en tout cas quand je parle de recherche, je parle d'une activité qui consiste à enseigner quelque chose au monde. C'est-à-dire, si on travaille sur un projet de recherche à Facebook, de même que quand on travaille dans un projet de recherche à l'université, on publie cette recherche. Et il y a plusieurs raisons pour publier cette recherche. La première raison est que le problème de faire du progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qu'une entité unique peut résoudre, c'est-à-dire Google, Facebook, Microsoft, aussi puissants qu'ils soient, ou IBM, ne peuvent pas, en isolation, faire des progrès significatifs en intelligence artificielle sans en parler au reste du monde. Parce que on construit sur les idées des uns des autres. Donc il faut une interaction entre une communauté assez importante. Et ce qui a été intéressant ces dernières années, c'est que à cause de l'engouement pour l'apprentissage profond, la communauté croît et attire des gens intelligents qui, par le passé, seraient allés travailler à Wall Street. Donc cette notion de recherche ouverte est très intéressante. La deuxième raison, c'est que quand on se force à publier notre recherche, la recherche est de meilleure qualité. Et puis la troisième raison, bien sûr, pour une compagnie comme Facebook, c'est les relations publiques pour s'établir comme une compagnie innovatrice, etc. Donc c'est pour ça que les laboratoires de recherche, bien sûr, opèrent un petit peu différemment dans leur style, mais d'une certaine manière, sont tous très ouverts, publient du code en open source, publient le produit de leur recherche. Donc l'apparition de l'intelligence artificielle ne sera pas un événement produit par une seule entité qui serait secrète.
Mais ces gens intelligents qui vous rejoignent au laboratoire de l'intelligence artificielle de Facebook, par exemple, Yann Lequin, ils ont quel profil ? D'abord, ces gens qui vous rejoignent, et puis peut-être vos étudiants. C'est des geeks ? C'est des chercheurs ? C'est des Français, des Américains, des Chinois ? De tout point de vue, ils ont quel profil ?
Alors, d'origine vraiment très très diverse au niveau mondial. J'ai pas compté le nombre de nationalités qu'on a
non, peu importe, dans l'organisation. C'est une façon de parler, parce que c'est quand même eux qui tiennent le marché.
Voilà, donc il y a environ 55 personnes pour l'instant à Facebook et à Research. Et dans quatre endroits, à New York, à Menlo Park en Californie, à Paris et à Seattle. Oui, les origines...
C'est plutôt des geeks, c'est plutôt des industriels, c'est plutôt des chercheurs.
Non, c'est en grande partie des chercheurs. Donc il y a à peu près un peu plus des deux tiers qui sont des chercheurs, donc des gens qui ont fait un doctorat, qui ont par la suite peut-être travaillé pendant quelques années dans un laboratoire de recherche universitaire, ou qui ont été professeurs, ou qui ont travaillé dans l'industrie, dans un labo de recherche. Donc des gens qui ont fait de grosses contributions, des publications dans des journaux internationaux, etc. Donc ça représente environ 70-75% des gens. L'autre 25% sont plutôt un profil d'ingénieur, donc moins intéressés par les publications, plus intéressés pour produire des systèmes qui fonctionnent et qui peuvent être utilisés en pratique. On a besoin de en fait mélanger un petit peu les deux compétences pour pouvoir avancer le plus vite possible. On est associé aussi à un autre groupe un peu plus gros que nous qui d'une certaine manière prend les résultats de nos recherches et les transforme en système réel. Donc ce sont vraiment des scientifiques, des chercheurs. Certains travaillent sur des projets de recherche très très spéculatifs à très long terme, d'autres sur des projets à plus court terme. Et puis, bien sûr, on prend aussi des post-docs, donc des gens qui viennent de finir leur doctorat, qu'on prend sur des postes de recherche temporaires, des étudiants qui commencent leur doctorat, qui peuvent travailler chez nous pendant leur doctorat, et puis des stagiaires.
Gérard Berry.
Oui, je voulais intervenir sur un point sur la communauté. C'est très souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent à un cerveau. Mais l'intelligence, c'est pas un cerveau. L'intelligence humaine, c'est la culture, c'est les échanges. Et ça, on ne sait pas du tout modéliser ça, il n'y a pas de mystère. Mais ce sont des sociétés, ce ne sont pas des cerveaux. C'est-à-dire que n'importe quel chercheur, s'il est tout seul, sauf cas extrêmement rarissime dans les anciens temps, mais maintenant c'est complètement fini, aucun homme tout seul ne peut devenir intelligent dans la recherche. C'est vraiment des communautés au travail et ces échanges. Et justement, quand on parle d'intelligence artificielle, très souvent, on parle d'un seul cerveau, même d'un cerveau de mammifère. Faut penser que l'intelligence humaine, c'est beaucoup plus que ça. C'est la société. C'est l'intelligence d'une société.
C'est pas tout à fait ce que dit Mark Zuckerberg, qui a dit il y a quelques semaines que pour 2016, il avait décidé de créer une intelligence artificielle qui ressemblerait à une sorte de Jarvis dans Iron Man. On revient à cette idée de jeu aussi, en disant « Je lui apprendrai à comprendre ma voix pour contrôler toute la maison, musique, lumière, température, viens, et autres. Je lui apprendrai à laisser les amis entrer en regardant leur visage quand ils sonnent à la porte. Je lui apprendrai à me signaler s'il se passe quelque chose dans la chambre de Max, ma fille, quand je ne suis pas avec elle. » Vous travaillez pour ça ? Vous travaillez pour ce que veut Mark Zuckerberg pour l'intelligence artificielle ?
Alors ce projet n'est pas un projet de la compagnie Facebook, c'est un projet personnel de Mark Zuckerberg. Mark est fasciné par l'intelligence artificielle. Le groupe de mon laboratoire, en fait, dans le bâtiment principal de Facebook, est assis autour de Mark Zuckerberg. Donc il est vraiment très proche de ça. Il aime bien s'environner de cette atmosphère de recherche. Il est passionné par le sujet. Et en fait, il est un petit peu frustré de certaine manière parce que il n'a pas le temps, bien sûr, en tant que PDG de la compagnie, de vraiment de mettre la main à la pâte. Donc, il s'est réservé du temps personnel pour pouvoir mettre ses mains dans le cambouis et vraiment avoir l'expérience personnelle de ce que ça veut dire de construire un petit système d'intelligence artificielle.
Giant Steps de Joel Cantrell, c'est votre choix, Yann Lequin.
Oui, je suis un grand fanat du jazz. Bien sûr, j'habite à New York, donc c'est un endroit idéal pour aller écouter du jazz. J'aime bien le jazz et je suis très admiratif des musiciens de jazz dans la performance intellectuelle de l'improvisation. Et c'est un grand mystère pour moi de comment on peut faire ça d'un point de vue intellectuel, comment on peut inventer de la musique qui se renouvelle tous les jours. À chaque fois qu'on joue un morceau, elle est différente, surtout avec un niveau de créativité et de technique comme John Coltrane. Il y a plein de musiciens très, très talentueux. Donc je suis très admiratif de ça et pour moi c'est un mystère, j'aimerais bien l'élucider. Peut-être certains de mes amis musiciens de jazz en fait me disent qu'ils préféraient qu'on élucide pas trop ça. Mais je pense que c'est un des métiers qui met l'âme des gens en communication les unes avec les autres et qui ne sera jamais remplacée par les ordinateurs.
Yann Lequin, vous habitez à New York, mais vous allez bien venir à Paris pendant quelques mois puisque vous êtes titulaire de cette chaire annuelle informatique et sciences numériques qui comprend quelques cours, quelques séminaires que vous allez donner, toutes les références. La première, je crois, c'est le 12, la première leçon, ou le premier cours, c'est le 12 février.
12 février, à 14h30 au Collège de France.
Bon, évidemment, on se reporte au site du Collège de France. On se reportera aussi au site de La Grande Table sur franceculture.fr. Merci beaucoup d'être venu, Yann Lequin, au micro de La Grande Table aujourd'hui. Merci beaucoup, Gérard Berry, d'être venu à ses côtés aujourd'hui. La Grande Table, c'est terminé pour aujourd'hui et donc pour cette semaine. C'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims à la réalisation, Philippe Baudouin à la prise de son aujourd'hui. C'était Jacques Azubert.